La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
L'homme peut-il vivre sans croire ? La croyance est l'absence de connaissances véritables. Pourtant, elle se dissimule aussi derrière les propos les plus rationnels. User de la raison, c'est être lucide sur ce qui, en chacun de nous, est croyance. Par Anne Monnier, professeure de philosophie. La croyance se définit généralement comme une attitude consistant à adhérer à une idée, une pensée, une affirmation, une théorie ou un dogme. On peut croire que les fantômes existent, que l'être humain est perfectible, que notre meilleur ami est digne de confiance, que la femme a des capacités intellectuelles inférieures à celles de l'homme ou que Dieu a créé le monde en 7 jours. Comme le montrent ces différents exemples, la croyance recouvre un champ très large de domaines. Il existe pourtant un point commun à ces différentes affirmations, à savoir qu'elles relèvent d'une adhésion plus ou moins hasardeuse. Le fait de croire est ainsi souvent associé à la naïveté, rien ne me garantit que mon meilleur ami ne me trahira jamais, à l'erreur, ou encore au préjugé que les philosophes nomment volontiers « opinion ». Mais alors que l'erreur est une affirmation fausse, non conforme à la logique ou aux données expérimentales, le préjugé peut consister à tenir pour vrai ce qui est faux, mais peut aussi avoir une part de vérité. Si je crois que l'humanité va vers un avenir meilleur, je peux avoir tort ou raison. Dans tous les cas, je n'ai pas de preuve de ce que j'avance.
Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Ainsi se définit donc la croyance. Elle est absence de connaissances véritables, c'est-à-dire rationnellement fondées. Voilà pourquoi il est commun d'opposer la croyance au savoir et d'identifier la croyance à une certitude facile, à une vérité apaisante qui, le plus souvent, ne résiste pas à une enquête approfondie. La croyance est par conséquent un état critiquable en ce qu'elle s'émancipe du travail de la raison. Elle est ce sommeil dogmatique par définition étranger au travail de la réflexion. En croyant, l'homme renoncerait ainsi à sa liberté de questionner, d'interroger. Il préférerait le confort des réponses préfabriquées, le côté rassurant du prêt-à-penser qui laisse la raison en repos. Ce que je crois, c'est ce que je tiens pour vrai, et la certitude d'avoir raison ne reposerait que sur une acceptation passive ou des raisons qui ne résisteraient peut-être pas à l'examen. La croyance s'opposerait donc bien à la véritable compréhension des phénomènes. Elle serait due à un besoin de réponse facile, à une certaine paresse intellectuelle qui la distinguerait de l'exigeante démarche scientifique. Cesser de croire serait une question de volonté et de courage, celui d'affronter la réalité telle qu'elle est pour cesser de l'imaginer telle que nous la désirons. Mais l'homme en est-il capable ?
Ça fait du bien, non ? Normal. Vous êtes sur Sirius Audio.
Progrès de la science sans recul de la croyance. Dans les faits, la croyance semble définir l'humain. Si nous examinons nos pensées, il est aisé de constater qu'elles sont majoritairement constituées de croyances. Rares sont en effet les idées que nous pourrions justifier rationnellement. On pourrait même aller plus loin et s'interroger sur un éventuel besoin de croire inhérent à la nature humaine. Hypothèse légitime lorsqu'on constate qu'aucune société connue n'est dépourvue de croyances ou de rituels religieux, ou encore que le progrès scientifique n'a pas abouti à la disparition des croyances religieuses ou plus largement des superstitions. Ce n'est pas parce que l'astronomie peut démontrer les incohérences de l'astrologie que les gens vont arrêter de lire leur horoscope, ou pire, d'y accorder crédit. Il semble alors pertinent, afin de tenter de répondre à la question, de se pencher sur les causes probables de la croyance et de sa permanence. Croire est-il une nécessité pour l'homme, ou pourrait-on déceler d'autres causes qu'un besoin intrinsèque, cause qui, une fois explicitée, pourrait permettre d'envisager une approche plus rationnelle du monde ?
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Si l'on considère le cas particulier mais représentatif de la croyance religieuse, nombreuses sont les analyses des motifs qui peuvent pousser l'être humain à abandonner la rationalité au profit d'une approche magique de l'univers. Ainsi, dans le De Rerum Natura, Lucrèce pose les questions suivantes. Quelle cause a répandu chez tous les peuples de la Terre la croyance de l'existence des dieux, a rempli les villes d'autels, a institué les cérémonies religieuses qui précèdent toutes les entreprises importantes ? Quelle est aussi l'origine de ces sombres terreurs dont les mortels sont pénétrés et qui tous les jours élèvent de nouveaux temples sur toute la face de la terre et instituent des fêtes en l'honneur des immortels ? La réponse est évidente. Si les hommes ont inventé les dieux, c'est tout d'abord pour tenter d'expliquer les phénomènes naturels qu'il ne comprenait pas. La cause est donc ici l'ignorance. Cependant, la mise en œuvre de ces réponses faciles aux interrogations humaines face aux événements a une conséquence très préjudiciable pour l'homme lui-même, car, nous dit Lucrèce, c'est ici-bas que la vie des sots devient un véritable enfer. Tous les châtiments que la tradition place dans les profondeurs du fleuve des enfers, tous, quels qu'ils soient, c'est dans notre vie qu'on les trouve. Ainsi, non seulement les croyances sont fausses, mais elles ont en plus un effet très néfaste puisqu'elles prêtent aux dieux des exigences et une puissance effrayantes. Ô race infortunée des hommes, d'avoir attribué aux dieux de tels effets et de leur avoir prêté en outre des colères cruelles. Que de gémissements vous êtes-vous alors préparés à vous-même, que de plaies pour nous, que de larmes pour nos descendants. Expliquer les réalités du monde par des puissances supérieures est donc non seulement inutile, mais surtout dommageable, puisqu'elle engendre des terreurs humaines.
Êtes-vous vraiment sérieux ? Ok, bienvenue sur Sirius Audio.
J'ai peur, donc je crois. Si on pousse l'analyse des causes un peu plus loin, il apparaît d'ailleurs que la peur a une place encore plus fondamentale, n'étant pas réductible à un effet secondaire de la croyance, mais se révélant être un facteur aussi déterminant que l'ignorance. Il semblerait bien que ce soit dans les situations difficiles, lorsque la réalité ne correspond plus à ses désirs, que l'homme cède à l'irrationalité. La vie offre une grande quantité de sujets d'angoisse, dont le plus insupportable est sans doute la certitude de la mort inéluctable. Il est déjà fort remarquable, comme le souligne Spinoza au tout début de la préface du traité des autorités théologiques et politiques, que la moindre situation délicate pousse les hommes à croire. Si les hommes avaient le pouvoir d'organiser les circonstances de leur vie au gré de leurs intentions, ou si le hasard leur était toujours favorable, ils ne seraient pas en proie à la superstition. Et Spinoza de relever que si, lorsque tout va bien, les individus peuvent faire preuve de sagesse, il n'en est pas de même lorsque la conjoncture devient plus difficile. Ce n'est pas pour rien que les sectes profitent des catastrophes naturelles pour récupérer de nouveaux adeptes. Dans son guide d'intervention du sauveteur, destiné à ceux qui portent secours lors de telles catastrophes, Loïc Cadieu précise que le ministère de la Santé invite à se méfier de ceux qui viendraient profiter du malheur des gens et de leur fragilité du moment, comme de prétendus thérapeutes qui offrent leur aide et ne sont souvent que des enrôleurs de sectes. Les consignes insistent donc sur la nécessité de protéger les victimes auxquelles les adeptes proposent une aide chaleureuse, dont le but premier est bien entendu l'adhésion de ces personnes en grande détresse psychologique. La crédulité vient de ce désir d'espérer lorsque la peur ou le malheur domine.
L'éléphant est Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Vivre sans croire, renoncer aux certitudes faciles et consolantes, ce serait aussi ne pas sacrifier son libre jugement, même dans les moments les plus durs. Mais est-il humain de supporter l'évidence sans imaginer un autre monde construit selon nos désirs ? Les faits ne sont pas faciles à accepter. Nous ignorons d'où nous venons et où nous allons, nous souffrons, le bien n'est pas toujours récompensé ni le mal puni et la mort nous attend. Accepter l'absence de réponse et des douloureuses évidences n'est peut-être pas en notre capacité. La religion, en général, a précisément la vertu de transformer ses angoisses en espoir. Face à une réalité cruelle, nous préférons le plus souvent nous réfugier dans l'illusion, cette illusion issue des désirs humains que justice soit faite, que la mort ne soit pas une fin et que nos questions ne restent pas sans réponse. C'est cette difficulté à accepter la réalité qui, dans son ouvrage « L'avenir d'une illusion », pousse Freud à comparer l'homme croyant à un petit enfant englué dans ses peurs. L'impression terrifiante de la détresse infantile avait éveillé le besoin d'être protégé, protégé en étant aimé, besoin auquel le père a satisfait. La reconnaissance du fait que cette détresse dure toute la vie a fait que l'homme s'est cramponné à un père cette fois plus puissant. La démission de la raison viendrait donc d'une incapacité à accepter les évidences douloureuses qui font que notre existence est difficile à supporter dans sa cruauté. Cependant, Freud ne considère pas pour autant que l'angoisse propre au statut de l'être humain soit une excuse.
L'éléphant est Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Croire consiste à se soumettre à un dogme, à des idées qui ne sont pas le résidu de l'expérience ou le résultat final de la réflexion. Et c'est ainsi renoncer à devenir adulte pour demeurer un enfant qui ne peut se passer de la figure du père. C'est la raison pour laquelle il refuse l'idée selon laquelle il faut laisser l'homme à sa croyance sous le prétexte qu'elle l'aiderait à vivre en lui faisant du bien. Car enfin, écrit-il encore dans l'ouvrage précédemment cité, cela est si infantile, si éloigné de la réalité que, pour tout ami sincère de l'humanité, il devient douloureux de penser que l'homme ne s'est pas encore élevé au-dessus de cette conception de l'existence. Le stade de l'infantilisme doit être dépassé. L'homme peut et doit grandir en acceptant la réalité et en se débarrassant de ses peurs primitives. Il le peut grâce au développement des sciences, grâce à une connaissance thérapeutique qui le libérera des imaginations anciennes. Et il le doit, car la croyance religieuse irait à l'encontre du potentiel humain, idée que l'on retrouve dans un autre registre chez Marx lorsqu'il qualifie la religion d'opium du peuple, cette drogue qui endort les souffrances mais empêche surtout de changer la misère du monde présent. Freud espère donc que l'homme se libère de ce qu'il considère comme la névrose de l'humanité, grâce à une approche plus scientifique des faits. Mais cela peut-il précisément être davantage qu'un espoir, une croyance en la capacité des hommes à s'émanciper de l'irrationnel, ou, pour le dire autrement, ne serait-ce pas une illusion que de vouloir échapper à l'illusion ?
Il n'y a que les gens qui aiment rire qui sont sérieux. Vous êtes sur Sirius Audio.
L'illusion structurante. On pourrait tout d'abord évoquer l'hypothèse que la science ne parviendra jamais à détruire un mirage si enraciné en l'homme, comme cela a déjà été évoqué plus haut. Mais penser qu'il est illusoire de mettre fin à l'irrationnel peut aussi signifier que la science elle-même a besoin de croire, que la croyance se cache là où on ne l'attend pas. À un être purement connaissant, la connaissance serait indifférente, peut-on lire au paragraphe 98 du deuxième livre de Humain trop humain. Si Nietzsche écrit cela, ce serait précisément pour souligner que l'homme s'intéresse à la connaissance scientifique pour des raisons qui sont loin d'être exclusivement rationnelles. L'énergie qui le pousse ne peut venir d'un univers désincarné dépourvu de désir. Croyez-vous que les sciences auraient jamais pu se développer et grandir si elles n'avaient pas eu pour avant-garde les magiciens, les alchimistes, les astrologues et les sorcières dont les promesses et les mirages devaient d'abord susciter la soif, la faim, l'agréable avant-goût des puissances cachées et interdites ? Ne voyez-vous pas qu'il a fallu que fût promis infiniment plus qu'il ne pouvait jamais être accompli pour que seulement quelque chose puisse s'accomplir dans le domaine de la connaissance ? Autrement dit, l'illusion est structurante et il y a un motif profond qui pousse à savoir et à connaître que Nietzsche identifie par ailleurs à une volonté de simplification du réel et de vérité à tout prix.
La culture générale par Sirius Audio et l'éléphant.
Freud le premier croit que la vérité est divine, qu'elle est une valeur absolue et inconditionnelle. Un certain scientisme, de même que la religion, relève de cette volonté de vérité à tout prix, la seconde négligeant la réalité dans ce qu'elle peut avoir de déplaisant, tandis que l'autre s'illusionne sur la capacité de l'homme à se passer de l'illusion pour vivre. Vouloir connaître objectivement le monde, ce ne serait pas seulement rechercher le savoir ou la vérité, ce serait aussi vouloir un monde absolument transparent, conforme à nos désirs. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'identifier la science et la religion dans la mesure où elles diffèrent grandement par leurs effets et les efforts exigés. Vouloir comprendre vraiment les phénomènes et les mécanismes du monde ne peut être identifié à une attitude d'acceptation passive. Et il est indéniable que la science permet une action sur l'univers bien supérieure à celle de la prière. Ce dont il s'agit de faire l'hypothèse, c'est qu'il n'y a pas de volonté pure, et qu'il est peut-être illusoire de penser que la quête de vérité peut se trouver exempte de désir. Tout comme faire de la vérité le but ultime reviendrait peut-être à s'illusionner sur son existence. Freud veut croire en la science. Il croit en la capacité humaine de vivre selon la raison. Tout comme un athée croit lui aussi que Dieu n'existe pas.
Vous vous prenez au sérieux ? Parfait. Vous écoutez Sirius Audio.
Par conséquent, s'il apparaît que la croyance se dissimule aussi derrière les propos les plus rationnels, s'il apparaît que nous avons besoin de croire et que ce besoin est le moteur caché de la volonté de connaître elle-même, il serait vain de chercher à se débarrasser de la croyance au nom d'une raison devenue une idole froide et désincarnée. Mais user de sa raison peut consister à se montrer plus raisonnable et à être lucide sur ce qui, en chacun de nous, est croyance. C'est en demeurant ainsi vigilant, en admettant qu'on ne parle et ne voit le monde qu'à partir de certains présupposés, que l'on peut être lucide sur notre part indéfectible de croyance, tout en cessant de la prendre pour une vérité. Il n'est pas grave de croire, cela est même inévitable. Mais il est important, si l'on veut échapper à l'infantilisme et autres sectarismes, de ne pas se leurrer sur ce qui en nous est croyance, et éviter d'en faire un absolu capable de nous aveugler. La véritable science est au contraire celle qui propose des modèles explicatifs provisoires de la réalité, modèles qu'elle est toujours prête à modifier. L'écueil n'est pas la croyance, mais le fanatisme, qui consiste à cesser de se poser des questions et à s'enfermer dans la certitude de posséder la vérité. C'est lorsque la croyance s'ignore comme telle, lorsqu'elle s'accompagne d'un désir de domination et de la prétention à détenir la seule vérité, que le danger menace. Danger qui ne réside pas dans la croyance elle-même, mais dans l'usage qui en est fait.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.